LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
C'est quoi un tube pour vous ?
Quelle question horrible.
Un tube, moi j'ai l'impression que c'est un moment, quelque chose qui est assez singulier pour se détacher des autres morceaux qui lui ressemblent et assez évident pour être instantanément compris par des gens.
Grave.
C'est l'art de rendre évident des choses qui ne le sont pas forcément.
Grave.
C'est le moment de l'artiste, plus le choix des auditeurs qui sont en adéquation à un moment. Et ça, ça crée le tube.
Je sais pas ce que c'est un tube. Un tube, c'est une petite merveille qui s'explique pas, qui rentre dans le cœur de plein de gens, comme un petit virus, et qui dit voilà, moi j'existe, et je sortirai plus jamais de votre vie.
Les tubes de ma vie, un documentaire de Jérôme Sandelaars et Agnès Catou. Quatrième épisode, entendre les tubes de ses enfants. En 2020, j'ai 50 ans et 3 garçons. C'est l'ère MeToo, les filles donnent de la voix et elles ont bien raison. Angèle, à l'unisson, balance son quoi. Les codes et les pratiques musicales changent. Exit le rapport physique aux pochettes des CD et vinyles. Place au tout numérique. Les disques s'écoutent désormais en ligne et mes compiles d'hier ont été balayés par des playlists virtuelles. C'est l'ère du son, comme disent mes fils, accessible à tous, mais aussi plus volatile. Avec les home studios, la production musicale s'est démocratisée au risque parfois d'un certain formatage, overdose d'autotune et de vocodeur. Avec les pratiques, le vocabulaire a évolué lui aussi. On parle plus volontiers de producteurs, beatmakers et autres topliners que de réalisateurs, arrangeurs ou compositeurs. Pour ce quatrième et dernier opus, on croise ma playlist et celle des Milléniums et l'on pousse ensemble les portes des studios de Renaud Létang et Tristan Salvati, indispensables réalisateurs de Manu Chao, Philippe Catherine et Angèle. Au programme s'invitent aussi Giorgio et Meryl, deux rappeurs de talent, ainsi que l'inclassable Zao de Sagazan, qui réconcilie les générations. Tous nous éclairent sur leur manière d'appréhender la création musicale.
Grave.
Renaud Létang, ça fait 35 ans presque que vous faites le métier d'ingénieur du son, puis mixeur, puis réalisateur. Est-ce que ce métier, il a beaucoup évolué ?
Moi, j'ai commencé en 89. Donc en 89, on était encore entre des bandes analogiques et des bandes numériques, mais tout était sur bande. Là, il y a eu l'arrivée des sampleurs. Donc on a cru que les musiciens servaient plus à rien. Et vers les 95-96, il y a les premiers enregistreurs numériques qui marchent sur ordinateur, type Pro Tools ou Studio Vision et Cubase, je crois qu'ils faisaient. Moi, j'ai vraiment connu cette évolution. Et avec l'album Clandestino, on était vraiment parmi les premiers à faire un album entièrement en numérique dans un ordinateur, où on pouvait mélanger l'audio et le MIDI. Et on pouvait traiter l'audio comme du MIDI. Ça veut dire que c'était la première fois qu'on pouvait prendre une guitare acoustique et la dupliquer comme un sample. Ça veut dire qu'on jouait une mesure, quand c'était la mesure qu'on aimait, on la mettait partout. Mais du coup, ça devient de la techno, parce que c'est un truc qui se répète. Et la couleur de Clandestino est beaucoup liée à cet outil. Et donc, ça a rendu cet album comme un nouveau style, parce que c'était la première fois qu'on bouclait de l'acoustique.
Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu dans la cuisine de l'un de ces morceaux pour comprendre très concrètement votre apport, Renaud Létang ?
Alors, Megustastu, il a vraiment deux gimmicks. Il a un gimmick musical très fort, qui est la ligne de basse jouée avec une guitare acoustique nylon, un truc très simple, un peu reggae enfantin, mais qui est hyper mémorisable et hyper chantante. Manu me l'a joué, je l'ai samplé et c'est devenu le gimmick du morceau. Et donc ça reprend ce truc un peu hypnotique, techno, mais avec un son, on n'est pas habitué d'avoir ça avec ce son. Et donc ça fait des ritournelles qui sont et modernes et émotionnelles. Et le gimmick de voix, qui est un gimmick incroyable, qui est le principe de « me gusta ce que vous voulez, me gustas tu ». C'est ultra poétique, c'est ultra simple, tout le monde le comprend. Je trouve qu'il y a tout dedans. il y a et la formule rythmique et le sens qui est trop marrant. Ça veut dire, je me rappelle qu'avec Manu, on avait passé une soirée à Barcelone avec Victoria Abril. Vous voyez cette actrice?
Bien sûr. D'accord.
On lui avait fait faire une version avec ses mots à elle. Donc elle chantait « Me gusta la playa, me gusta esto ». Elle disait ses mots à elle. Et après, on l'a fait faire à des enfants, là, juste pour le plaisir, quoi. Et tout le monde se l'appropriant. Mais n'importe quel mot devient hyper poétique dans ce morceau. À tel point que c'est un des morceaux qui a été mis dans les livres d'espagnol pour les adolescents français, mais aussi en Espagne pour les maternelles. Et c'est ce qui m'a procuré le plus de bonheur.
Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú.
Radio
me gusta su cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Vous dites avec Manu Chao, finalement on a été à l'origine d'un style. Comment on pourrait le définir, ce style?
Pour faire Clandestino, on avait une basse, pas bien, une Gretsch, ça allait.
Une Gretsch, c'est...
Une guitare électrique, la guitare électrique de Manu, la Gretsch, là, ça allait. Une guitare acoustique nylon, pas terrible. Un sampler, deux micros, et c'est tout. Et avec ça, il fallait qu'on fasse un album. Donc les outils étaient hyper réduits. Manu, il venait du rock. C'était un truc assez violent, avec beaucoup d'énergie.
La Mano Negra.
La Mano Negra. Je crois qu'il avait une envie de faire un truc différent. Il voulait faire du rock, mais d'une autre manière. Ça a été ça son talent. C'est d'être précurseur dans comment faire du rock sans mettre de guitare électrique saturée. Sans faire... Mais que l'intention, elle soit rock. Et que ça fasse comme un nouveau rock. Et donc, il fallait que cet album ne soit pas un album exotique à la fin, et que ça soit toujours du rock et que les gens comprennent que c'est toujours du rock.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illégal.
Comment vous l'appréhendez cet album de Manu Chao et Barbara Lebrun en tant qu'historienne de la chanson?
L'album Clandestino qui sort en 98, en fait, il sort en plein moment de l'éclosion de la culture altermondialiste. Et Manu Chao est vraiment intégré dedans. Il soutient la campagne française du groupe ATTAC, qui à l'époque réclame la taxation des flux financiers internationaux. Donc c'est un mouvement, mettons, radical de gauche. Et Clandestino devient vraiment la bande-son de ce renouvellement activiste de la gauche planétaire, presque, disons. Et l'album et la chanson-titre qui s'appelle Clandestino, en fait, se concentre sur la question du territoire, la question des frontières. Le clandestino, c'est un anonyme immigré illégal, mais qui, quelque part, symbolise le paradoxe de l'époque qui est que les flux financiers ont le droit de voyager, mais les immigrés n'ont pas ce même privilège. Et le commentaire de l'album, c'est de dire qu'on doit laisser les individus se déplacer et voyager d'un pays à l'autre, comme Manu Chao lui-même avec son passeport français en a le privilège.
Il y a une imagerie aussi qui colle à cet album. Quand on regarde un petit peu tout le design, c'est Manu Chao qui l'a conçu, les couleurs. Enfin, ça m'évoque aussi un petit peu toute l'imagerie marketing qu'il y a pu y avoir autour du Che.
Oui, oui, absolument. D'abord, il y a une imagerie, moi je trouve, intergénérationnelle. Il y a beaucoup d'emphase sur la notion de dessin naïf, dessin d'enfant, le collage, le montage, tout ce travail visuel autour de l'accumulation de différentes sources. Bon, ben, la culture punk l'avait fait 20 ans avant, et Mano Negra, faut pas oublier, se situer dans le sillage de la culture punk en France. Et musicalement aussi, on entend des chansons qui sont intergénérationnelles. Peut-être avec un peu d'ironie, mais je me rappelle d'un commentaire, il me semble, dans Les Inrecuptibles, où on disait que Manu Chao est le plus gros vendeur des maternelles en France, quoi. Aussi au niveau des paroles, c'est très répétitif. On est dans l'esthétique de la boucle, du cycle, de la répétition, peut-être aussi du babillage. C'est-à-dire qu'il mélange les langues, le français, l'espagnol, l'anglais, le portugais, parfois l'arabe, etc., pour faire une gymnastique de la bouche, une gymnastique vocale et sonore qui est très originale, mais qui est aussi très particulière au monde de l'enfance, je trouve. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo.
Où est-ce qu'on arrive là, Tristan Salvati?
On arrive dans le hall de mon studio. Bienvenue, on y trouve mon piano. Donc ce piano, je l'ai récupéré, il était très important pour moi, dans le sens où j'ai appris la musique dessus. Et c'est d'ailleurs sur le piano que j'ai composé mes premiers morceaux.
C'est votre instrument de prédilection, le piano ?
Non, alors mon instrument de prédilection, c'est le violon. J'ai fait le conservatoire de Rueil, j'ai mon prix en violon.
Alors sur le piano, on peut voir une photo d'une petite fille, et puis juste en dessous, disque de diamant Angèle Brol, remis à Tristan Salvati pour plus de 500 000 albums vendus en France, certifié SNEP septembre 2019.
Bah oui, j'avoue que l'objet est quand même assez inédit, même s'il ne reflète pas la totalité des albums vendus, parce qu'aujourd'hui, elle en a vendu beaucoup plus. 1 million en France et pas loin de 500 000 à l'étranger.
Un tube, c'est combien de clics, Tristan Salvati ?
Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Ça ne peut pas vraiment se quantifier comme ça. C'est plus quelque chose qui rentre un peu dans le quotidien des gens. C'est un peu le but de la musique, au final.
Est-ce que pour vous, le sens du tube a évolué entre les tubes d'antan où on se précipitait chez le disquaire pour acheter le dernier single ou le dernier 45 tours, et aujourd'hui, où tout est sur Internet, sur des plateformes ?
Il y a quelque chose qui a profondément changé. C'est l'accès à la musique. Moi, je suis né dans les années fin 80, donc j'entendais le titre à la radio. Par chance, le présentateur, il avait dit ce que c'était. S'il ne le disait pas, je devais réécouter la radio en espérant réentendre la chanson. Après, une fois que j'avais le nom, il fallait que j'aille au magasin acheter les deux titres. Donc le morceau, je l'ai dans la tête, ça fait un mois que je l'attends, je vais aller chez le disquaire, je vais l'acheter, je vais enfin pouvoir l'écouter. Rendez-vous compte de la valeur que ça donnait à la musique par rapport à aujourd'hui. Vous avez Shazam, c'est génial, hein, c'est un outil incroyable, hein, je l'utilise tout le temps et tout, mais j'entends quelque chose, ça me plaît pas mal, c'est tiens, c'est quoi ? Je Shazam, je le mets dans ma playlist, je l'ai presque déjà oublié finalement.
Donc là, une seconde pièce, d'ailleurs on sent que le son n'est pas du tout le même, beaucoup plus mat.
Oui, tout à fait, alors là c'est vraiment la partie studio.
Alors, beaucoup d'instruments dans ce studio, des guitares, des claviers, à nouveau un piano, un ordinateur, bien évidemment.
Effectivement, il y a la pièce maîtresse qui est l'ordinateur. Il n'y a plus d'enregistrement sur bande, ça passe même plus par une console, donc c'est vraiment directement printé. Maintenant, je tiens dans la musique que je produis à y insuffler quand même beaucoup d'instruments analogiques pour du grain, pour avoir une couleur particulière, et c'est pour ça que j'ai autant de claviers. Alors je dis pas que j'utilise tous tout le temps, mais ça me tient vraiment à cœur de mettre des vraies guitares, des basses, des synthétiseurs. On peut voir, il y a un Moog One là-bas, il y a un ERP 2600 ici, il y a un Memory Moog qui est un de mes synthés préférés. Il y a quelque chose d'impalpable, il y a quelque chose d'imparfait qui correspond tout à fait à ce que j'aime dans la pop musique, c'est-à-dire faire quelque chose d'à la fois très séquencé, très droit, très sur le temps, et à la fois quelque chose d'humain, en fait, à travers la machine.
On s'assied devant votre ordinateur ?
Ouais, allez.
Et alors là, vous avez ouvert la session de « Balance ton quoi ?»
Ouais, tout
d'Angèle.
À fait. Angèle était arrivée avec la chanson, elle était écrite et composée. Là, il a fallu la réaliser, donc On a trouvé la bonne structure, on a mis, il y a beaucoup, beaucoup de versions, je crois qu'il y a une quarantaine de versions de ce titre. Et à partir du moment où on interagit avec des artistes qui sont créatifs eux-mêmes, je pense que notre travail, c'est venir bousculer un peu les artistes pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, et c'est une partie de tennis après. Donc à l'époque de la démo, il y a deux sons principaux qui ont été gardés, donc il y a le clavier du départ. C'est une émulation d'un piano électrique qui donne le ton un peu de la chanson. Quelque chose d'assez édulcoré, qui paraît naïf, mais en fait qui l'est pas du tout. Et un autre son un peu poète-poète. Donc ça, c'est un son qu'on a tenté de refaire avec un de mes synthés qui s'appelle le Memory Moog, que j'utilise beaucoup. En fait, ça marchait pas. Ce qui fonctionnait, c'était vraiment le son original. Et du coup, on l'a gardé tel quel, comme Angèle l'avait pensé à l'époque de sa démo.
C'est quoi pour vous, justement, un arrangeur, Tristan Salvati ?
Aujourd'hui, le métier d'arrangeur a pas mal évolué. Je pense qu'avec la musique moderne, on interagit de moins en moins avec l'orchestre. Moi, je le fais de temps en temps, mais ça va être plutôt de designer le son, en fait. Et du coup, le métier d'arrangeur aujourd'hui, selon moi, fusionne avec le métier de réalisateur artistique, qui est de façonner l'esthétique d'un disque. Donc, maintenant que je vous ai montré un peu les deux éléments principaux qu'on a gardés dans la démo originale d'Angèle, moi, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on ait quelque chose d'un peu explosif pour un refrain, pour redonner une structure un peu plus pop à la chanson. Sachant qu'il y a certains éléments d'arrangement que je n'aime pas du tout, par exemple les cymbales, tout ce qui est très métallique comme ça. Et en tant que producteur, les cymbales, ça fait vraiment partie de la caisse à outils pour faire partir un refrain, quoi. C'est vraiment, oh, bah, je vais mettre une cymbale, ça va. Donc enlever cet outil, c'était compliqué. Mais du coup, je me suis focalisé d'abord sur la rythmique. Voilà, donc là on peut entendre une rythmique assez chaloupée, il y a un kick qui est assez, une grosse caisse qui est assez volumineuse, assez moderne, avec beaucoup d'infrabasses dedans. Il y a aussi un côté percussif assez enlevé comme ça, parce qu'il fallait que ce soit un peu la fête sur le titre. On peut entendre des éléments assez électro, parce qu'il fallait que ce soit moderne. Donc voilà, toutes ces contraintes-là, elles ont été un peu imaginées au début. Après, une rythmique, ça ne marche pas sans une bonne basse qui soit assez dansante. Décorrélé de la chanson, ça fait vraiment un truc très électro. Mais après, on a remis des claviers pour étoffer. Et en fait, c'est vraiment travailler le son comme un boulanger, il travaillerait la pâte à pain. On malaxe, on fait rentrer le kick, on monte le kick, on rentre la basse, on monte les claviers pour vraiment trouver la juste émotion. Une fois que l'arrangement est fixé, que l'esthétique du son existe, qu'on en est content, on confie ça à un mixeur. Alors parfois, moi je le fais, mais j'aime bien aussi travailler avec des mixeurs. Et le mixeur, lui, pour faire un parallèle avec un tableau, c'est comme si la toile existait, les couleurs sont mises. Mais le mixeur va dire, ok, je vais souligner un peu le orange, là, il n'est pas assez voyant. Alors je vais mettre un petit coup de vernis sur le orange. Je vais mettre en valeur ce personnage-là. Alors je vais accentuer un peu les traits de son visage. C'est ça le boulot du mixeur. C'est, une fois que les cartes elles sont là, donner du relief.
On n'a pas parlé des voix, Tristan Salvati.
Ah,
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi.
Les voix, c'est fabuleux. Encore une fois, la réalisation d'un morceau ou l'arrangement d'un morceau, ou peu importe, c'est d'en exacerber un peu l'émotion au maximum.
Vous êtes comme un exauceur de goût.
Exactement.
Un bouillon cube. Ah, bah
ouais. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en... Moi, je passerai pas à la radio.
Moi, mon but, c'est de me dire, ok, est-ce que c'est le bon ton? Avant la justesse, avant, est-ce que déjà on y croit?
Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi.
Après, c'est le son de manière plutôt technique. Parce que en gros, aujourd'hui, et moi dans mon travail, j'ai toujours eu à cœur d'enregistrer moi-même les voix et les chanteurs et de les diriger moi-même. Et ça se fait ici avec mon micro de toujours, mon U67. C'est un micro qui a beaucoup de sensibilité. Il prend beaucoup ce qui se passe dans les hauts médiums de la voix. Il prend tout l'air. Et en même temps, c'est un micro à lampe qui est vieux. Du coup, il est chaud en même temps. Donc si vous voulez, vous avez...
Le bonheur n'existe que pour plaire.
À la fois quelque chose de très défini. Enfin, et à la fois quelque chose d'un peu ancien, d'un peu chaud, c'est merveilleux.
Et sinon, vie, parfois, je me sens obligé.
Et après, ça fait
le spleen n'est plus... Ah, ça, c'est ma partie préférée.
Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué.
Alors ça, c'est Angèle.
Ouais.
Puis à son frère, Roméo Elvis.
Alors son frère, il a vraiment une voix avec beaucoup de grave.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL.
Une voix avec beaucoup de grave. Moi, j'étais super chaud pour en laisser plein. Lui me disait, faudra éclaircir quand même et tout. Bon, ça, après, ça a été le travail du mix.
Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier.
Beaucoup de réverb sur ces deux voix.
Peut-être trop. Avec le recul, peut-être un peu trop. Je pense que la réverb, elle a son importance dans ce morceau parce que tout est très sec dans la production. Donc je pense que c'est ce qui emporte un peu, parce qu'il fallait que ça emporte un peu. Bah, ça se joue pas mal au niveau des réverb justement.
Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Voilà. Ça me rappelle des super souvenirs. C'était un bonheur de faire ce disque. On a beaucoup, beaucoup rigolé. Et je pense que ça s'entend.
Il y a beaucoup d'artistes qui ont recours à l'autotune, Tristan Salvati.
L'autotune, c'est à la base un système de correction automatique de justesse.
Et quel regard vous portez, vous, sur cette pratique?
Moi, j'adore l'intelligence artificielle et tout. Je prends ça avec beaucoup de bienveillance. Ça me passionne et tout. Donc, je trouve ça génial. C'est un outil. Il faut savoir l'utiliser. Et puis, surtout, je pense que cet outil, il a permis à des gens qui avaient des mélodies en tête de pouvoir les exprimer sur des disques, en vrai. Un exemple, c'est Damso.
Fais de bas, je le vois, si moi je te veux pas, fuis, moi je te veux toi. Fais de bas, je le trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Fais de bas, je le vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de gens, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi.
Ça veut dire, si je vous entends bien, que si on n'est pas un excellent chanteur ou une excellente chanteuse, finalement, on peut quand même se lancer dans la musique et corriger ses défauts de justesse.
C'est pas un effet alchimiste. C'est-à-dire que si vous chantez avec la mauvaise attitude, avec l'autotune, alors peut-être que ça va être juste, mais il n'y aura pas l'intention, il ne se passera rien. Après, c'est le public qui décide. Si le public avait un rejet en masse de l'autotune, il n'y aurait pas d'autotune. S'il y en a autant, c'est bien que ça plaît. Et le jour où ça ne plaira plus, eh ben, il n'y en aura plus.
Quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous, je sais ce que tu veux vraiment. Quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment, je sais que tu n'as plus le temps. Quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps, baby. Baby, oh baby, baby.
L'autotune à la base, c'était fait pour réaccorder des choses qui étaient fausses.
Renaud Létang.
Ça s'est transformé en outil pour faire une performance vocale. Moi, personnellement, j'adore l'émotion que ça procure quand c'est utilisé à bon escient. Là où ça peut me déranger, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'existeraient pas sans cet outil. Et donc, est-ce qu'un outil peut prendre autant d'importance dans la vie artistique de quelqu'un? Donc ça veut dire, si c'est la guerre et qu'on coupe l'électricité, ces artistes n'existent plus et ne peuvent plus performer. Donc là, il y a un truc qui me dérange. Kanye West, sans l'autotune, n'y serait pas aussi bien. Mais Kanye West, il sait faire sans l'autotune. Drake, c'est bourré d'autotune, mais lui, il sait faire sans l'autotune. Demain, il fait un concert, tu mets zéro autotune, le concert, il va être super. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan.
Giorgio, vous avez 30 ans, vous êtes rappeur, vous avez à votre actif 5 albums. Et je voudrais qu'on s'arrête ensemble un moment sur un morceau qui a très bien marché, qui s'intitule « Concept flou ». Titre en duo avec « Cœur de pirate ». On en écoute un bout ?
Allez.
Laisse-moi partir, devenir qu'un esprit. Est-ce qu'on s'éveille loin de nous, loin d'ici? On s'était dit tant de promesses au début, au plus profond de moi. Mais laisse-moi partir cette fois.
C'est quoi l'histoire de ce morceau, alors, Giorgio?
Alors là, c'est plein de ping-pong, ce morceau. C'est Wax, qui est un producteur, guitariste, qui m'envoie un message sur WhatsApp et il me dit « Écoute, là, j'ai enregistré une guitare. Je pense qu'elle tirait hyper bien, je te l'envoie, t'en fais ce que tu veux. » Et la guitare me parle vachement. Et du coup, j'écris dessus. Je fais une première maquette chez moi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, on a une première version du morceau où il y avait mon refrain et mes couplets. Et à ce moment-là, il y a Cœur de Pirate qui me suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram.
Qui est québécoise.
Oui, tout à fait, qui est québécoise. Je trouve qu'elle a une super belle voix, que c'est assez bien écrit. Et en fait, je réécoute la maquette en vélo dans Paris et je me dis, ah, ça serait cool qu'il y ait sa voix sur ce titre. Et donc, je lui envoie le morceau et ça lui plaît directement. Elle me dit, comment tu veux qu'on fonctionne? Est-ce que tu as un texte pour moi? Je lui dis, non, je préfère que tu écrives, que ça soit toi. Et puis, elle me dit, bah écoute, j'essaye un truc et si ça te plaît, bah, on le garde, on continue comme ça. Elle me demande juste une seule chose, c'est de pitcher le morceau, c'est-à-dire qu'en termes de tonalité, le morceau était trop haut pour sa voix. Et donc, pour bien poser sa voix, elle me demande de descendre le morceau et de le rendre plus grave. Et donc, c'est un morceau qui s'est fait du coup avec 4 personnes, avec Wax, originaire de la guitare, Lucci qui a produit tout le reste du morceau, Béatrice, Cœur de Pirate et moi. Et voilà, du coup, le morceau est né comme ça, de plein d'allers-retours entre Paris, Lille, Montréal.
Oui, parce que je précise que Lucci, lui, vit à Lille.
Oui,
pas en région parisienne.
Voilà. Et finalement, c'est un morceau qui s'est fait très très vite.
Parfois j'ai l'impression que le monde m'appartient. Puis parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, non. J'attends plus rien d'elle. J'ai pensé à une fille toute la semaine. Pas un signe de vie sur mon tel. Mes gars m'ont dit n'attendent plus rien de l'amour. La plupart n'y croient plus. On est juste en fin de vingtaine. Et c'est que maintenant qu'on quitte la rue. J'ai du mal à croire qu'avec les femmes on a déjà tout vécu. Un drap blanc sur mon cœur noir. Si je parle trop, je me sens dévêtu.
C'est vraiment révélateur de votre manière de travailler comme ça, à distance, avec des jeunes gens de votre génération. C'est comme ça qu'on bosse aujourd'hui.
Alors, je vais un peu botter en touche dans ma réponse et dire oui et non, dans le sens où c'est pas forcément ce que je fais tout le temps. Mais en tout cas, c'est possible de le faire sans qu'on le ressente vraiment, qu'on n'a pas forcément été en studio ensemble tous au même moment. Alors, ce morceau, ça a été fait pendant la dernière vague de la pandémie aussi, donc c'est pour ça que c'était compliqué de le faire autrement. Mais c'est aussi ça qui est hyper cool avec le rap et la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut presque enregistrer des versions définitives chez nous, hein. Ça m'est même déjà arrivé sur certains titres, et ça, c'est hyper cool, c'est un gain de temps, et en fait, ça permet aussi de faire de la musique partout.
pas dit je t'aime, je sais même plus si j'en suis capable. J'attendais un signe du ciel, puis quand il est tombé, je crois que je suis tombé aussi. Et quitte à me faire un film, j'aurais dû choisir un bien meilleur synopsis. J'ai jamais trahi un ami, mais par contre j'ai trompé des femmes que j'aimais, pour qui j'aurais pu donner ma vie. Des regrets dans un taxi nuit, cherche encore l'alchimie.
Comment vous écrivez, vous ?
J'aime bien avoir énormément de temps pour écrire. C'est-à-dire que j'ai besoin de frôler l'ennui, parce que je m'ennuie jamais vraiment, pour me mettre à écrire. Et donc parfois, je vais aller chercher ces moments-là en me disant « Bon, bah là, je reste chez moi pendant 2-3 jours, je vais plus lire, être tranquille chez moi, un peu hiberné. » Et puis en fait, là, je commence à écrire. Quand je suis énormément en activité, que je vois plein de monde, que je fais plein de choses, c'est jamais des bonnes périodes pour moi pour écrire. Donc moi, j'aime bien écrire chez moi et arriver au studio avec des textes, des idées, des propositions. Ces dernières années, j'ai bossé presque que avec Lucci. Et donc, on commence à chercher des accords, que ce soit à la guitare, avec des synthés, au piano, etc. Puis, dès qu'on a une première partie instrumentale, moi, je la fais tourner en boucle dans l'ordinateur. Et puis, je commence à écrire. Puis, en même temps, Lucci place des batteries. Puis, on réfléchit à ce qu'on veut faire musicalement.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce qu'il vous propose, Lucci ? C'est quoi sa touche personnelle ?
Ce que j'aime, c'est sa force de proposition. C'est que Lucci, il sait tout faire. Il sait jouer de la basse, il sait jouer de la guitare, il sait jouer du piano. Et puis, c'est qu'on a aussi la même culture musicale. On a écouté du jazz, beaucoup de rock anglais, beaucoup de rap américain, beaucoup de rap anglais, beaucoup de rap français. On est aussi très curieux d'écouter plein de nouveaux styles, même dans le R&B, dans la pop, dans tout ce qui se fait. Et on s'envoie tout le temps des trucs pour nous inspirer tous les deux. Et en fait, après lui, ça, j'aime beaucoup où on s'entend sur le grain que doit avoir le morceau. Et parfois, on va enregistrer des guitares hyper propres, puis on va les salir en faisant exprès, que le son soit un peu poussiéreux, que ça sonne comme un vieux sample. Avec Lucci, c'est quelqu'un qui aime se prendre la tête sur comment l'instrument doit sonner, l'esthétique qu'il doit avoir. Et moi aussi, c'est hyper important pour moi, parce que ça donne tout le cachet au morceau, toute l'émotion. Et il me connaît aussi hyper bien. Et parfois, c'est lui aussi qui me dit « Tiens, on n'a jamais fait ça ensemble, je trouve que ça tirait hyper bien. » Et c'est souvent vrai.
Et toi, c'est grande pour cacher un avenir, mais heureusement, on fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on sait même pas lire. Toujours de l'espoir, est-ce qu'on est naïf? Des souvenirs qui remontent le temps. On écoutait du reggae, ma chambre d'enfance c'était la Jamaïque. Noir comme le cœur de mes frères, comme mes lunettes de soleil.
J'ai relevé cette phrase. Vous dites, on fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on ne sait même pas lire. Georgiou.
Ouais, c'est dans le refrain de mon morceau Jamaïque. Souvent, le rap, c'est encore vu comme une sous-culture, une sous-musique, parce qu'on dit, ah, c'est tout le temps la même chose, alors que finalement, pas du tout. Et donc, le rap est encore mal perçu. Il a un traitement médiatique qui n'est pas au niveau de l'impact qu'il a culturellement dans le marché de la musique en France. Alors que finalement, il est plus que puissant, le rap. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le rap, quand j'ai commencé le rap, c'est que c'est une musique accessible. C'est-à-dire que par le flow, ce flow qui est comme parler, mais avec du rythme, qui laisse de la place de dire énormément de choses, de prendre beaucoup d'espace, de se livrer. Et en fait, il n'y a pas besoin de savoir chanter, il n'y a pas besoin de connaître ses notes, il n'y a pas besoin d'avoir fait de solfège pour faire du rap. Et ce côté accessible à tous, il est magnifique. La force du rap, c'est d'avoir comme une boucle parfois, juste sur 4 mesures ou 8 mesures qui peuvent se répéter tout le morceau et dont on se lasse jamais. Et quand on arrive à trouver cette boucle magique, c'est vraiment bon. En tout cas, c'est ce que je recherche le plus. Et donc voilà, on touche nos pianos comme ça, avec nos 10 doigts, avec des accidents, etc. Et on fait des disques d'or avec, sans même savoir lire la musique. Et c'est ça qui est cool.
Ce serait quoi pour vous la définition d'un tube, Georgiou ? C'est trouver la boucle magique, comme vous le disiez ?
Non, je pense que c'est plus que ça. Parce que je pense qu'un tube, ça se passe aussi dans des paroles qui parlent à tout le monde, dans des mélodies que les gens ont aussi envie de chanter. Donc ma définition d'un tube, c'est un morceau que tout le monde peut s'approprier facilement, même si le morceau paraît compliqué finalement, en le découpant.
Si je vous demandais comme ça à brûle-pourpoint de me faire un petit freestyle, vous seriez partant ?
Ouais, je pourrais. Hein.
Un tube en puissance.
Waouh. Alors moi, je ne sais pas ce qui va devenir un tube. C'est toujours un petit peu des accidents, moi, mes morceaux qui marchent le plus. Mais en ce moment, j'ai un morceau qui s'appelle « Quand tout s'enflamme », qui marche bien, il commence comme ça. Un verre de sky pour soigner l'amertume. On sort le CR quand Paris devient désert et que la galère tue. T'accélères, la vie passe trop vite au final. Pour perdre du temps en cellule ou dans une chambre d'hôpital. Laisse-moi faire ma zik, je suis pas dans ton copinage. J'ai des potes à l'asile qui reverront plus jamais un coquillage. M'en sortirai voir mon copilote dans le corbillard. Marquer mon époque comme Drogba en Côte d'Ivoire. J'écoute Osmo, j'écoute Pop Smoke, t'écoutes Modernity.
Tu me dis que c'est trop chaud mais rien que ça boycott. C'est tout pour la famille, tout pour la déter. Petit laisse les parler, ils parleront jamais des gens qu'il y a derrière. Vas-y, fin 2, c'est mort pour les ingrats. Protégé par Dieu, je peux assurer les fins de mois. Quand je pense à ma vie, c'est abusé, je suis peut-être miraculé. Comme Santa Maria de Guadalupe. Mes rêves m'accompagnent, les yeux ouverts, c'est classique. Je veux rouler sur l'or, pas mettre de la merde sur mes ASICS. C'est simple et basique, je viens de là où si tu payes pas, tu prends ton tarif. Demande à El Aziz.
J'ai grandi dans ma tête. J'ai perdu dans la fête. J'ai grandi dans ma tête. J'ai tout dit dans la tête. J'serais plus dans le mal, sentimental.
Quand tout s'enflamme,
j'serais plus dans le mal, sentimental.
Quand tout s'enflamme.
J'adore. En 2006, Philippe Catherine est nommé aux Victoires de la Musique grâce au tube Luxor J'adore. Et c'est encore vous, Renaud Létang, qui êtes aux manettes.
Luxor J'adore, je l'ai entendu vraiment tout de suite de manière tubesque. Pourquoi ? Parce qu'il y a un riff qui est tout bête et qui est hyper fort. Le riff de synthé, cette espèce de fausse guitare qui est évidemment un synthé électro qui fait ce dou 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 dou, enfin voilà, qui fait que... voilà. Et donc entre le riff de guitare synthé qui est hyper puissant et ultra efficace et le texte de Philippe, le j'adore, c'est un gimmick de voix incroyable.
J'adore.
Et surtout, le jeu coupe le son, c'est un gimmick de voix incroyable.
Je coupe le son.
Et donc, dès que j'ai reçu le morceau, j'ai senti le truc où on pouvait vraiment faire un morceau barjo, mais avec du sentiment et électro. Donc, c'était vraiment pied tous les temps. C'était par rapport à l'époque. Pour le coup, on était dans une prod hyper cohérente. Et ça a pris un peu de temps avant que les radios s'y mettent. Mais après, j'ai passé mon été à entendre le disque en boucle dans tous les scéniques de France.
Et je remets le son. Et je recoupe le son.
Myril, vous avez 28 ans et vous êtes autrice, compositrice et toplineuse.
Ouais.
Ça veut dire quoi, toplineuse ?
Toplineuse, c'est simplement faire partie du processus créatif d'un son. C'est un acteur de, comme un beatmaker, comme un auteur, comme un interprète. Enfin, on se met tous dans un studio et on crée à la recherche du bon son pour la tracklist, quoi. C'est vraiment chacun son rôle. C'est pas sexy, en fait.
La top line, c'est quoi, on pourrait dire ? Une accroche, c'est ça ? C'est trouver le gimmick, la petite phrase qui va accrocher l'auditeur ?
Si on fait appel à un top liner, c'est pour avoir des idées de mélodie. Et donc, du coup, ce serait d'optimiser les chances d'avoir un son qui tape, qui rentre dans la tête d'un peu tout le monde, quoi.
Vous avez travaillé, depuis que vous avez commencé dans ce métier, auprès de plusieurs rappeurs.
Ouais.
On peut en citer quelques-uns. SCH.
Ouais. SCH, c'était Le Code. Et Euro aussi. Pour Shai, j'ai travaillé sur plusieurs sons, comme Villa, Ishibidish, Liquid.
Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50.
Et Soprano, coucou.
Marseille te fait un coucou. Rio te fait un coucou. Milan te fait un coucou. Aïe, aïe, aïe.
Est-ce que vous lui faites entendre, c'est quoi ? C'est une mélodie ?
Ouais.
C'est de comprendre.
Ben, en fait, il y a la prod. Je passe derrière le micro. J'enregistre une mélodie avec des mots qui vont sortir instinctivement. Et du coup, une fois que c'est enregistré, on l'écoute en boucle. On se met d'accord si effectivement ça a un potentiel. Parce qu'on le sent, la vibe, c'est, la musique, c'est beaucoup de vibes et beaucoup de... On le ressent. Et donc du coup, une fois que toute cette phase-là est passée, on passe à l'écriture, au découpage. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre en refrain. Qu'est-ce qui serait plus intéressant à mettre là ou là ou là ou là. C'est des questions après... Je vais peut-être vous décevoir, hein, mais ça vient tellement rapidement et instinctivement que, voilà, après, ça part à l'écriture. Une fois que c'est enregistré, quoi.
Meryl, vous venez de nous parler de vos collaborations avec différents rappeurs en tant que toplineuse. Et pour ce qui concerne votre deuxième album, Aux Aurores, comment vous avez travaillé sur le titre Coca-Cola Mentos ?
Donc Coca-Cola Mentos, c'est Josh à la prod avec F-Side, deux beatmakers que j'affectionne particulièrement. On était dans mon studio chez moi et il y a une image en fait qui me... Enfin, j'accordais un intérêt sur l'écriture en fait... les métaphores, les trucs, nanana. Donc du coup, il y a une image qui me vient en tête, c'est la réaction chimique que provoque le Mentos dans du Coca-Cola. Parce que je pensais, en fait, le son m'inspirait une histoire d'amour et tout ce qui va avec, donc tous les ressentis que tu peux avoir quand tu tombes amoureux ou voilà, donc c'est souvent affilié à une explosion enfin de sentiments. Du coup, la première image qui m'était venue, c'était celle-là. Donc j'articule un peu tout autour de cette première image que j'ai. J'explique en fait tout ce que ça me fait ressentir. Et la mélodie, en fait, elle vient naturellement avec les mots.
Elle faisait comment la mélodie alors sur ce son, comme vous dites ?
Ouais, ça faisait... Donc voilà, en gros c'est ça. Et après, j'ai écrit dessus. Les épines font mal, laisse tes pour guérir, ouvre le livre comme noix de coco, coco, Coca-Cola Mentos. Ta main sur mon cœur, il explose.
C'est quoi un tube pour vous, Meryl ?
Un tube, pour moi, c'est un son qui dure sur des années. C'est-à-dire que il y a des sons que mes parents écoutaient jeunes et que moi, par exemple, je le connais encore. Pour moi, ça, c'est la définition d'un tube parce qu'il traverse les générations, il est immortel, en fait.
Aujourd'hui, il y a vraiment encore des tubes, on peut parler de tubes ?
On peut parler de buzz. Tout va tellement plus vite. Il peut y avoir des tubes, mais genre, il y en a 50 dans le même mois, en fait. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est toi qui as le tube. Dans deux semaines, il y a déjà un autre truc, il y a déjà un autre buzz, là, c'est fini.
C'est pas des vrais tubes. Alors, si je vous écoute, vous disiez le tube, il est immortel.
Il y a plusieurs significations. Il y a celui qui est hyper diffusé, qui sera hyper vu. C'est double tube si dans 50 ans, on s'en souvient. Mais ça reste quand même un tube, en vrai. Parce que sinon, ça aurait pas pété. Ça a pété. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que de la musique pour que ça pète. Il faut aussi un accompagnement, par exemple. Il faut un TikTok.
Vous servez beaucoup des réseaux sociaux, vous ?
Oui, on est dans la danse, nous. Ce serait bête de snobber ce genre d'outil qui c'est une merveille. Avant, il fallait avoir des équipes, des trucs. Même pour les gens qui se lancent, ben, ça peut lancer des carrières. C'est désacralisé, c'est cool. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de propositions. Parce que maintenant, tout le monde peut le faire. Donc du coup, ça régularise un peu. Jugé à cause de ma couleur. J'ai fait les choses dans la douleur. Mais j'ai fait les choses à ma couleur. Nécro-dealer, dealer.
Qu'est-ce qu'Internet a modifié dans notre appréhension des tubes, Renaud Létang ?
Ce qui a vraiment changé, c'est l'immédiateté du tube. Avec Internet... On peut se retrouver avec Booba qui dit la phrase marrante du week-end et ça devient un tube. Il y a tous les gamins de France qui vont écouter le morceau, mais après ils arrêtent de l'écouter. Donc c'est une forme de tube qui ne pouvait pas exister avant. Pareil, la consommation a fait que ça a changé aussi. On en écoute encore plus qu'avant. C'est de la consommation instantanée. Avant, il fallait un magnétocassette ou un vinyle. Donc il fallait aller dans un endroit et avoir une action physique. Donc il y avait une intention d'écouter de la musique. Aujourd'hui, c'est plus un réflexe. Ce qui est génial, c'est la musique qui est accessible n'importe où. Sur Spotify, par exemple, qu'on ait autant la possibilité d'écouter un vieux Beatles qu'un morceau de Drake, qu'un truc de hip-hop, peu importe. Ça a quand même une accessibilité qui est absolument incroyable. Avant, il fallait se déplacer avec tous les disques et puis la machine pour écouter. Enfin, on n'y est pas du tout. Après, artistiquement, ça a forcément amené des choses bien. Ça veut dire on a pu avoir accès à plein d'artistes qui n'auraient pas pu éclore avant parce qu'ils n'auraient pas pu avoir accès à la maison de disques, ODA. Donc ça a permis ça. Mais à la fois, ça a permis aussi qu'il y ait au milieu des choses bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pas bien. Et là, ça pose un problème parce que avant Internet, dans chaque art, il y avait des personnes qui validaient des projets à des étapes différentes. Donc, par exemple, un groupe qui commence en banlieue dans le 93, il va d'abord être validé par son collège. Après, il va être validé par son lycée. Après, il était validé par la petite MJC du coin qui se disait « Ah, lui, il a un petit truc, on va le mettre en concert. » Après, on gagnait le concours de la région. Après, il y avait la radio locale qui disait « Ah ouais, lui, c'est pas mal son morceau. » Et donc, on était validé à plein d'étapes. Ce qui fait que quand on arrivait à la fin, il y avait une sélection qui était faite pour que vous, auditeurs, vous ayez que des choses qui soient à peu près bonnes à consommer. Un artiste qui arrivait au bout de la pyramide, il avait forcément des choses à dire, il avait forcément un talent quelque part, parce que la validation n'aurait pas pu se faire à autant d'étapes. Avant, je pestais un peu contre les radios, je pestais contre le truc, mais en fait, je m'aperçois que ce rôle de filtre, il est primordial pour garder une qualité.
Tu l'as mis au début, là ?
Non.
C'est bien qu'on le remette au début, ouais. Zao de Sagazan, alors vous, vous avez 23 ans. Vous avez sorti un premier album qui s'intitule La Symphonie des Éclairs. Titre éponyme de l'album. Oui. Ça a été quoi le point de départ ?
Le point de départ, c'est un vol d'avion. Moi, je fais partie de ces gens en avion qui regardent à travers le hublot et qui ont tendance à se prendre un peu pour un oiseau et qui trouvent ça magnifique. Et donc, je fais le constat très simple qu'il fait toujours beau au-dessus des nuages. Puis après, on descend, on se retrouve à l'intérieur du nuage et je tombe sur un tableau magnifique de lumière qui traverse les nuages, etc. Le côté un peu plus gris et beaucoup plus sombre, un peu tempête. Et là, je me dis, en fait, moi, je trouve ça encore plus beau, ça. Et si j'étais un oiseau, j'irais plutôt ici plutôt qu'en haut, quoi. Et voilà, donc je fais ce petit constat-là. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Et je note ça sur mon petit portable, et voilà, tout part de ça.
Quand vous dites votre petit portable, c'est quoi, votre téléphone ?
Oui, mon téléphone, oui. Je note tout sur mon téléphone. J'ai pas de carnet, moi, je suis très mal organisée, donc je préfère avoir un seul endroit où je mets tout. Et puis, j'ai aussi surtout l'enregistrement vocal où je peux à tout moment être dans la rue et faire... Parce que j'ai une petite idée. Quand je suis à mon piano, je le laisse enregistrer parce que je, à tout moment, peut sortir quelque chose d'intéressant et au moins, je l'aurai enregistré. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Moi, je travaille toujours avec la lumière éteinte, les yeux fermés. Il y a un truc un peu bizarre, mais où je rentre dans une certaine transe un peu de...
De rêve éveillé.
Exactement, mais il y a vraiment de ça, de se rêve éveillé, où je m'imagine des histoires et en même temps, je réfléchis beaucoup, donc... Je réfléchis tout en ayant la mélodie en boucle qui est continue, qui continue, qui continue. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau au nuage. Il fait toujours beau. Et en fait, au-dessus des nuages. Ah oui, il fait toujours. Et là, donc c'est bon, j'ai au-dessus des nuages. Et puis après, je continue. Moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. Je coûterais sous la pluie. La symphonie des éclairs. Voilà, donc je le poste sur Instagram et il marche bien. Et on me fait comprendre qu'on aimerait beaucoup que je la sorte. Et donc je rentre dans cet enfer d'écriture qui va me prendre un temps mais fou. Et je me disais, bon, il faut que je trouve une métaphore. Ça marchait pas. Et puis le jour où c'est arrivé, où j'ai réussi à faire cette métaphore, donc qui est celle d'une petite tempête qui me représente, moi en tout cas en tant que jeune fille très sensible et qui avait du mal à gérer cette sensibilité, qui pensait que c'était une faiblesse. Et au bout d'un moment, je me rappelle quand j'ai terminé le pont, que j'ai vraiment galéré à faire, je me suis dit, oh, incroyable, j'avais l'impression d'avoir vraiment résolu l'équation, quoi. Et donc c'était très agréable.
Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur.
Est-ce que vous avez toujours fait bon ménage avec votre voix, vous, Zao de Sagazan ?
Moi, je pense que ça a toujours été une amie. J'ai eu beaucoup de complexes toute ma vie, mais alors ma voix n'a jamais été un complexe. Là où tous les garçons avaient une voix au perché, moi, j'étais toujours dans les graves. Et quand j'ai commencé la musique, je me suis très vite rendu compte que c'était un point fort. Une voix grave, elle pose un truc comme ça, tu vois. Moi, il y a une voix vraiment qui m'a aidée à aimer encore plus la voix que j'ai. c'est Brigitte Fontaine. Quand j'ai entendu cette voix-là, je me suis dit, oh, incroyable, on peut aussi faire des chansons avec une voix pareille. Mais moi, je sais que les gens qui m'ont inspiré, c'est les gens qui vivent leurs chansons, c'est des Brel, c'est des qui racontent vraiment des histoires, ce que fait aussi Stromae. Et des fois, c'est un rien qui change tout.
Je suis amoureuse de l'inconnu.
À la fin de Mon Inconnu, il y a un rire où tu comprends que la meuf est complètement starbée. Et je sais que ce rire, je ne l'avais jamais fait une seule fois, et c'est juste au bout de la 40e prise où je me suis dit, vas-y, on y va. Ce qui est sorti de moi, mais un côté un peu diabolique. Et en fait, on l'a gardé, on s'est dit, elle est géniale, tu vois.
C'est du théâtre ?
Complètement. Moi, je suis passée par mille manières. Par exemple, cette vidéo, je crois que dans mon souvenir, c'était un peu maniéré, mais... Donc c'est You want feed it. Il y a un côté très un peu nasillard et je me la joue et Amy Winehouse. Enfin, je sais pas, mais je cherche en tout cas à découvrir ta voix. Et en même temps, ça, moi j'aime bien, c'est aussi une autre manière de chanter. Mais il y a toujours ces questionnements-là d'interprétation et c'est vraiment comment tu poses ta voix. Et en fonction de si tu cries ou si tu le chuchotes, les mots n'auront pas du tout le même impact.
Vous, vous êtes vraiment une autodidacte. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude de vous enregistrer tout le temps, de vous réécouter et de travailler comme ça, c'est ça ?
Ouais, complètement. Complètement autodidacte, et je crois que ça joue beaucoup sur ce que je suis devenue, typiquement le rapport aux boucles. Par exemple, j'ai jamais été, je sais qu'il y a beaucoup de gens, leur idole, c'est Beyoncé, les divas, etc. J'ai jamais été très impressionnée par la technique, moi, c'est pas trop ça qui me parle. Par contre, je suis très impressionnée par la sensibilité, etc., et par la sensibilité que tu peux trouver aussi dans un Cold White avec juste deux accords et... Et moi, je suis en mode genre, mais c'est fantastique, c'est génial. Là où des fois des trucs extrêmement techniques, du coup, ça m'éloigne de la personne. Je sais que quand j'ai découvert la chanson de Le Labyrinthe de Pan, ta la 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 la, non 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 non, j'étais absolument, c'est une des plus belles chansons que je connaisse, une des plus belles mélodies que je connaisse, qui a deux accords, quatre notes, qui transperce le cœur. Et je crois que c'est ça qui m'excite encore plus dans la chanson, c'est d'être capable de faire une merveille en quatre notes, quoi.
Je suis incapable de faire un choix. Ils sont tous bien, tous un peu faits pour...
Il y a Pierre qui arrive.
Pierre qui ?
Pierre Cheguillaume, qui est mon producteur, mon ombre, depuis très longtemps maintenant, et qui a fait tous les arrangements du disque avec moi, et qui... ne fait pas que ça, qui fait tout le live, qui est un peu mon bras droit, quoi. On fait tout ensemble.
Et alors, c'est quoi votre rôle, Pierre Cheguillaume ?
Bah, si on parle de style, en fait, étant donné qu'on voulait faire rentrer un petit peu dans les chansons que tu avais commencé à écrire, la musique électronique, et franchement, le gros de ce qu'on a en commun dans la musique électronique, c'est souvent des trucs qui sont plutôt du début de l'utilisation des machines, donc du début des années 80, quelque chose d'assez répétitif, assez simple et très binaire. J'aimais vraiment de swing, j'aimais vraiment le swing de la house qui est apparu dans les années 90. On était avant ça, on était le moment où les machines, c'était vraiment une grille et quelque chose de très simple. Et c'était l'idée de partir de là, d'avoir quelque chose de froid par rapport à ça.
Moi, je me rappelle, on a beaucoup... il fallait que je te montre des sons que j'aime. Puis il y avait aussi cette notion de dire des mots. Tu veux qu'elle ressemble à quoi ta musique ? Et entre autres, il y avait le côté cinématographique, il y avait le côté effectivement binaire, il y avait le côté... un peu horreur, donc on adore les BO de films d'horreur. Il y avait le côté industriel, et en même temps il y a le côté aussi rêve. Et je sais que quand j'ai écouté entre autres le Terre et Mine, par exemple Clara Rockmore, etc., c'est toi qui m'as fait découvrir Clara Rockmore. Je me suis dit, mais ça c'est fantastique, c'est un instrument qui est très proche de la voix et qui me fait ressentir beaucoup de choses. Donc ça fait partie des nombreux sons qu'on a décidé que ce serait le son de Zao, entre autres.
En fait, toutes les ondes Martenot, le Térémine, tout ça, c'est utilisé pour bruiter beaucoup de films au début de la musique électronique. Et c'était intéressant de retrouver ça et de remettre un petit peu ce côté cinématographique au milieu de cette musique électronique. Donc c'était assez à propos d'imiter ce genre de son. En tout cas, on l'a pas fait avec les machines de l'époque, mais c'était de donner cette ambiance et cette une subtilité en plus avec ça.
Là où je trouve le Térémine est aussi beau, c'est qu'il y a un... Il y a un côté en même temps très acoustique, même, enfin, qui vient un peu du violoncelle, des vrais. T'as l'impression d'avoir un vrai truc acoustique, et en même temps c'est électronique, c'est un petit peu. Il y a un mélange de robot humain que j'aime beaucoup, et je crois que c'est un peu ce qu'on a essayé de chercher aussi, de mélanger voilà, le côté hyper sincère de cet album et le côté humain, le côté, en même temps le côté robot.
Tout se passe tout doucement dans ces murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr.
Quel regard vous portez sur l'intelligence artificielle au service de la musique ? Est-ce qu'on peut imaginer que demain on concevra des tubes entièrement à partir de l'IA ?
Ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas une IA qui nous fasse une mélodie absolument extraordinaire et qui. Ça fait un peu peur, on se dit on va nous prendre notre taf. Et en même temps, pour le coup, un truc dont je suis sûre, c'est qu'une IA n'aura jamais, en tout cas pour l'instant, le pouvoir d'un interprète. Ce qui va être très intéressant, c'est de mélanger des vrais humains et des IA. Et de faire des collaborations comme ça, je ne sais pas. Mais j'ai assez espoir au fait qu'il y aura des belles chansons par les IA. Des paroles, ça va être plus compliqué, je pense. Je ne crois pas trop au fait qu'une IA serait capable d'écrire une poésie qui a du sens. Je ne pense pas qu'une Barbara va être renaître par une IA. J'y crois moyen, ça. Open-minded. Nous verrons bien.
Merci à Renaud Létan, Barbara Lebrun, Tristan Salvati, Meryl, Giorgio, Zao de Sagazan et Pierre Cheguillaume. Mixage, Julien Douminc. Un grand merci à Fanny Leroy pour sa collaboration à l'écriture, ainsi qu'à Léo de Boutigny, mon stagiaire préféré. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attaché de production Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. C'était Les tubes de ma vie, quatrième épisode, Entendre les tubes de ses enfants. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Agnès Catou.
Comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots.
Guillaume Erner.
C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit.
Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre.
À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.